Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ces textes du prophète Jérémie et pour la grâce que tu nous fais de nous mettre à ton écoute ce matin encore. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire la majeure partie de ce long chapitre 31. On va quand même sauter quelques versets. Je vais lire les versets 1 à 22 et puis 31 à 37. Jérémie 31, à partir du verset 1. En ce temps-là, l'Éternel le déclare, « Moi, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Voici ce que déclare l'Éternel. « Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. » Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau, tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. » Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm, « Allons et montons à Sion vers l'Éternel, lui notre Dieu !» Car voici ce que l'Éternel déclare, « Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob, éclatez d'allégresse pour celui qui a la prééminence parmi les peuples. Clamez fort vos louanges en disant, « L'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. » Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre, et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs, je les ramènerai alors qu'ils seront suppliants et je les conduirai vers les cours d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas, car je serai un père pour Israël et Éphraïm sera mon premier-né. Et vous, les autres peuples, écoutez donc ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel qui disperse Israël viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasira des biens que je lui offrirai. L'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne pleure plus, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense, l'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi afin que je revienne, car tu es l'Éternel mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Maintenant éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. » Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi, mon cœur est en émoi et j'ai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens aux communautés d'Israël, oui, reviens dans tes villes. Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle ? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme. Verset 31. « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain. » l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et qui fait mugir ses flots et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'était il y a 20 siècles, à Jérusalem. Toute la ville était plongée dans la grande fête des pains sans levain qui se concluait par le repas de la Pâque, repas qui commémorait la délivrance du peuple d'Israël de sa captivité en Égypte. Depuis quelques jours, Jésus et ses disciples font des allers-retours entre Jérusalem et le petit village de Béthanie à 3 km à peu près, où ils sont logés pour la nuit, probablement chez leurs amis Marthe, Marie et Lazare. Mais ce soir-là, Jésus ne retourne pas à Béthanie. Il prend avec ses disciples le repas traditionnel de la Pâque dans une maison à Jérusalem. Et lors de ce repas, après que les formules et les gestes traditionnels ont été prononcés pour commémorer la sortie d'Égypte, Jésus va introduire ses propres formules et ses propres gestes. « Ceci est mon corps, dit-il en rompant le pain sans levain. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, il prend la coupe et il prononce cette phrase « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, pour le pardon des péchés. » Une nouvelle alliance. Cette parole doit nous frapper. Parce que tout le repas de la Pâque, il trouvait son sens dans l'alliance conclue entre Dieu et Israël. Alliance conclue au mont Sinaï. C'est parce qu'il a choisi Israël pour en faire son peuple que Dieu l'a libéré du joug égyptien. Toute la foi du peuple d'Israël était centrée sur cette alliance avec sa loi, sa foi et ses rites. Mais Jésus, alors qu'il s'apprête à quitter ses disciples, et c'est bien pour ça qu'il ne retourne pas à Béthanie, il sait quel est le programme, si j'ose dire, Jésus, alors qu'il s'apprête à quitter ses disciples, évoque une nouvelle alliance. Et il parle de donner son corps et de verser son sang pour que cette nouvelle alliance soit conclue pour le pardon des péchés. Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire par cela ? Eh bien, cette notion de nouvelle alliance, Jésus ne l'invente pas, car le prophète Jérémie en parlait déjà dans ce chapitre 31, 7 siècles plus tôt. Qu'est-ce que Jérémie annonce dans ce long chapitre ? Je vous propose d'identifier deux idées clés dans ce texte. Une restauration au-delà de toute espérance. Et puis la révolution de la nouvelle alliance. Une restauration au-delà de toute espérance. Un soir, il y a quelques années, à la faveur d'un état de cet état de fatigue avancé qui suit ces 2 heures fatidiques qui vont du bain des enfants au coucher, en passant par le repas, le rangement et tout ça. Certains connaissent sans doute. À la fin de ces 2 heures dont on ressort complètement lessivé, j'étais trop fatigué, n'est-ce pas, pour mes lectures habituelles dans Tolstoï, Kierkegaard, etc. Et je suis donc allé sur YouTube. Il s'agissait d'un épisode d'une émission américaine en plus, Shark Tank. Émission importée un temps en France, semble-t-il, sous le nom de « Qui veut être mon associé ?». Alors je préviens certaines âmes sensibles, c'est une émission complètement capitaliste. Des personnes ont un entretien avec des multimillionnaires, voire milliardaires, et essayent de les convaincre de s'associer à leur projet d'entreprise. Et lors d'un épisode, un agriculteur vient présenter son projet. Et c'est cet épisode-là que j'ai vu ce soir-là. Il veut vendre un produit à bas prix à d'autres agriculteurs qui, dit-il, n'ont pas les moyens de le payer plus cher. Et donc, il veut leur vendre à un prix particulièrement bas. Et on lui fait remarquer que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vendre ça à ce prix-là. Lui fait-on remarquer presque avec un peu d'amusement. On lui indique que sa marge ne sera pas suffisante. Il ne peut pas avoir des associés, il n'y aura pas assez. Et tous semblent d'accord pour lui dire que son projet est touchant, mais ne tient pas la route commercialement. Jusqu'à ce qu'un membre du panel, le seul qui était resté silencieux jusque-là, lui dise brusquement, rempli d'émotion, « Je vais vous donner tout ce que vous demandez. » Et il s'explique. « Les agriculteurs sont la colonne vertébrale de notre pays, dit-il. Moi aussi, je veux les aider. Je serai votre associé, sans autre condition. » Et les autres sont, il y a comme un silence, les autres sont stupéfaits. Et à ce moment-là, c'est comme si toute logique transactionnelle est mise de côté et c'est le cœur qui parle. Alors je ne sais pas, peut-être que cet homme avait des parents agriculteurs ou ce genre de choses. Je n'ai pas eu le contexte. À infiniment plus grande échelle, c'est ce qui se passe dans ce texte. Dieu annonce qu'il va tout donner au peuple d'Israël et de Juda. Il va ouvrir grand les vannes de la bénédiction de façon bouleversante. Par un amour tenace, il va faire le choix totalement inattendu de la bénédiction, là où le jugement et l'épreuve paraissaient logiquement comme la seule issue possible. Plus tôt dans le livre de Jérémie, Dieu a été pourtant, on l'a vu déjà, implacable dans l'expression de son jugement sur le peuple infidèle. Mais au chapitre 31, Dieu va se montrer encore plus implacable dans son désir de bénir son peuple et de lui faire grâce. Dans les versets 1 à 22 de ce chapitre, et même en fait jusqu'au verset 30, mais nous n'allons pas voir 23 à 30, dans cette première partie du chapitre, on assiste comme à un festival de promesses. À chaque tournant, ce sont de bonnes nouvelles qui vont s'ajouter les unes aux autres. Au verset 1, Dieu annonce sa réconciliation avec son peuple. Il sera leur Dieu, ils seront son peuple. Et d'ailleurs, ces paroles seront répétées plus loin dans le texte. Et dans un sens, ce verset premier résume toute cette partie du chapitre, voire tout le chapitre entier. Une relation restaurée entre Dieu et son peuple. Il n'y a rien de plus essentiel. Au verset 2 à 4, Dieu annonce la restauration du peuple et du pays. Et il affirme que la relation d'amour qui l'unit au peuple est toujours d'actualité. Dieu n'a pas oublié Israël, malgré le jugement, malgré l'exil, malgré la destruction du temple, etc. Verset 3, dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » D'autres versions de la Bible traduisent un peu différemment, mais ça ne change pas le sens essentiel. L'image sous-jacente, c'est celle d'un mari qui attire son épouse et qui lui promet fidélité, qui lui parle de son amour éternel. Ensuite, au verset 5 et 6, Dieu va annoncer la réunification entre les Israélites du sud et du nord, qui étaient séparés depuis plusieurs siècles. Le peuple de Juda, exilé à Babylone, je cite, « plantera des vignes sur les coteaux de Samarie ». Samarie, c'est la capitale du royaume du nord. Elle a été dévastée d'ailleurs un siècle avant Jérusalem. Donc le peuple du sud ira cultiver la terre au nord. Et ensuite, il est indiqué que les gardes du royaume du nord, appelés Éphraïm, iront adorer Dieu à Sion, donc à Jérusalem, capitale du sud. Autrement dit, Dieu va réunifier le pays, il va faire plus que simplement rétablir les Judéens du sud, donc qui sont exilés à Babylone, il va faire plus que juste les rétablir dans leur situation d'avant l'exil, mais il va restaurer le royaume de David. Il va rassembler son peuple. Au verset 7 à 9, Dieu annonce le retour des exilés au pays. Verset 8, « Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre. » Et précise les versets 10 et 11, « Ça sera remarqué par les peuples environnants, par les nations environnantes. » Et vous, les autres peuples, verset 10, « Écoutez donc ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. » Une façon de dire dans le monde entier. Et cette parole, elle est frappante. Parce que le livre de Jérémie est globalement focalisé sur l'avenir du peuple d'Israël, selon la chair, comme on dit, peuple ethnique d'Israël. Là où d'autres prophètes Ésaïe en particulier parle régulièrement d'un avenir pour toutes les nations. Jérémie le fait beaucoup moins. Mais ici, dans ce verset 10, on a un rappel discret que Dieu n'oublie pas le reste du monde. Il avait promis à Abraham, jadis, que sa descendance serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Eh bien, Jérémie annonce qu'un jour, les autres peuples écouteront l'Éternel et le feront connaître partout dans le monde. Ensuite, au verset 12 à 14, on retrouve la promesse du retour au pays, décrite en termes pleins d'émotions. Les voici, verset 12, qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards, et je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai de leur chagrin. Alors c'est vrai, au verset 15, on va trouver l'unique note dissonante de cette partition du chapitre 31. Et ce verset, il est bien connu parce qu'il est cité au début de l'évangile de Matthieu en lien avec le massacre des petits garçons suite à la naissance de Jésus à Bethléem. Verset 15, voici ce que dit le texte de Jérémie. « Voici ce que déclare l'Éternel, on entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils. » Et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que la ville de Rama se trouvait sur le chemin de la déportation. C'est donc un flashback sur le passé récent, celui de la déportation, que nous voyons dans ce verset. Rachel, la femme du patriarche Jacob, dit Israël, donc la mère du peuple. Rachel est décrite comme pleurant ses fils, les fils d'Israël, qui sont emmenés en déportation ou tués par les Babyloniens. Mais ça ne va pas durer longtemps, ce douloureux flashback, il laisse très rapidement la place, dès le verset suivant, à l'espérance. Verset 16, « Voici ce que déclare l'Éternel, ne pleure plus, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense, l'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. » Ainsi, la mention des cris et des larmes de Rachel, douloureux souvenir du temps d'épreuve, est encadré par la proclamation de la joie, de la consolation et de l'espérance. Et je trouve poignant que ce verset 15 soit cité dans le contexte de la naissance de Jésus. Parce que cette naissance, elle est intervenue dans la faiblesse et dans la douleur, dans la précarité, environnée de violence. Et l'apôtre Matthieu fait le lien entre le drame vécu à Bethléem, le massacre des petits garçons suite à la naissance de Jésus, et les cris et larmes de Rachel, donc du peuple d'Israël, au verset 15 de notre texte. Et c'est frappant de voir que l'apôtre Matthieu ne cite pas le verset 16 qui dit « Sèche tes larmes, ne pleure plus ». Il s'arrête au verset 15. Pourtant, il connaissait parfaitement sa Bible et il sait très bien que ces cris et ces larmes de Jérémie 31,15 sont encadrés par la promesse et l'espérance. Les pleurs sont décrits pour souligner la délivrance à venir. Or, c'est précisément cette délivrance qu'il décrit dans son évangile. La délivrance apportée par Jésus, venu pour sauver le peuple, son peuple de ses péchés. Il y a quelque chose que je trouve très fort. Jésus naît entouré de souffrances, mais cette naissance intervient pour nous délivrer de nos souffrances. Et lorsqu'à la lumière de la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus, nous disons notre douleur, notre souffrance, nous pouvons avoir l'assurance au cœur de cette souffrance qu'après le verset 15, il y a le verset 16. Quand Jésus, Dieu a déjà mis à l'œuvre notre consolation et notre guérison. Mais Matthieu écrit son évangile, et quand les récits du début sont nous parle de ce qui s'est passé avant la croix et la résurrection de Jésus. Jésus naît dans les larmes, mais il est venu parce qu'en lui, Dieu va sécher les larmes. En Jésus, la vie, la joie et la paix ont toujours le dernier mot. Mais revenons à notre chapitre 31. Pour l'instant, il y a un mouvement qui est unilatéral. C'est Dieu qui console, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui bénit. Mais au verset 18 et 19, Dieu annonce que sous l'effet de cette consolation et de cette restauration, le cœur du peuple va changer. Et il va y avoir un mouvement de repentance, un mouvement de réveil spirituel. Et cette fois, c'est le peuple qui va s'adresser à Dieu comme un fils prodigue à son père. Verset 18, tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau indompté, mais fais-moi revenir à toi afin que je revienne. Fais-moi revenir à toi afin que je revienne. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Et voici la réponse du Père, pleine d'émotion. Verset 20, Éphraïm, Israël, est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi, mon cœur est en émoi et j'ai pour lui beaucoup de compassion. L'Éternel le déclare. Ça nous rappelle peut-être une parabole du Nouveau Testament. Mais juste après, on va avoir, même si ça saute peut-être pas aux yeux à première vue, on va avoir un retour à la métaphore conjugale qu'il y a eu déjà un peu plus tôt. Suite à ce changement de cœur, Israël sera comme une épouse qui veut séduire son époux, qui veut lui plaire, qui veut l'aimer. Verset 22, l'Éternel va créer du nouveau sur la terre, maintenant c'est la femme qui entourera l'homme. Dans le contexte, autrement dit, cette fois ce n'est pas le mari qui s'approchera de sa femme pour tenter de la séduire, ce qui, aux yeux du prophète, semble être la situation plus classique, laisserai-je chacun juger, mais ici, c'est la femme qui ira faire des avances à son mari. C'est le peuple de Dieu qui recherchera son Dieu. C'est symbolique, évidemment. Le prophète multiplie les images pour nous parler d'un Dieu qui a choisi d'aimer son peuple rebelle et d'un peuple qui répond à cet amour par un cœur transformé. Maintenant, après avoir lu cette section, nous devons constater que deux problèmes de taille demeurent. D'abord, le problème du péché n'est pas réglé. Les gens d'après l'exil, est-ce qu'ils seront moins pécheurs que les gens d'avant et pendant l'exil ? Non. Le cœur humain, toujours marqué par le péché, toujours marqué par la faute de Genèse 3 et sa répercussion de génération en génération. Comment donc Dieu peut-il affirmer avec tant de confiance que les Israélites pourront ainsi l'aimer en retour, le rechercher, etc. L'autre problème, c'est le décalage, et on en a déjà un petit peu parlé, le décalage entre ce que ce texte nous décrit et la réalité historique du retour d'exil. Effectivement, le peuple de Juda a pu rentrer chez lui, suite à l'édit de Cyrus daté en 539 avant Jésus-Christ. Mais pour le reste, on constate un grand décalage entre les promesses et la réalité au moment du retour d'exil. La royauté dans la lignée de David n'a pas été rétablie. Le pays était dirigé par des gouverneurs sous tutelle perse. La reconstruction, que ce soit la reconstruction du temple ou de la ville, a été laborieuse, difficile, frustrante et avec des résultats plutôt décevants. Et on peut lire à ce sujet les prophètes Néhémie et Agé. Et sur le plan spirituel, on est loin du réveil promis. Le prophète Malachie, notamment, nous décrit un peuple lassé de devoir adorer Dieu. Il y en a marre de devoir adorer Dieu. Ça ne nous intéresse plus. Un peuple en proie à l'immoralité et à l'injustice sociale. Malachie, c'est après le retour d'exil. Alors comment comprendre ce décalage ? Se pourrait-il que le retour d'exil ne soit qu'une première étape vers une restauration beaucoup plus profonde. Et comment faire pour que les cœurs soient changés, que des hommes pécheurs puissent s'approcher d'un Dieu saint et être réconciliés avec lui ? Eh bien, c'est la seconde partie du texte qui répond à ces questions, la révolution de la Nouvelle Alliance. Un de nos défis actuels avec ma femme, c'est d'apprendre à nos enfants, qui sont encore assez jeunes, à dire s'il te plaît et merci sans qu'on ait besoin de leur rappeler, sans qu'on ait besoin de leur dire tout le temps qu'est-ce qu'on dit, etc. C'est long cet apprentissage, c'est vraiment long. Sans être un spécialiste de l'enfance, j'ai l'impression qu'il y a deux étapes dans cet apprentissage. Il y a d'abord l'étape où ces formules de politesse commencent à être intégrées, mais comme un réflexe. Pavlovien. Voilà, l'enfant demande quelque chose et il comprend qu'il y a cette espèce de code qu'il ou elle doit prononcer. Il faut dire s'il te plaît, sinon je ne vais pas avoir ce que je veux. Et c'est comme un code. Et il ou elle se dit, si je ne leur dis pas merci après, ils ne vont pas me lâcher. Donc ça fait partie du package pour obtenir quelque chose. Voilà la première étape. On apprend la loi. Il faut dire s'il te plaît, il faut dire merci. Mais on peut espérer, même si on n'y est pas encore tout à fait chez nous, on peut espérer qu'il y a une seconde étape où au moins parfois le s'il te plaît ou le merci viennent du cœur, d'une reconnaissance sincère pour la générosité ou la disponibilité de l'autre. C'est un peu le passage entre la première et la seconde étape dans l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple dont nous parle ce texte. Le passage d'une loi qui s'impose de l'extérieur à une loi qui s'impose de l'intérieur à la conscience. Mais d'abord, nous devons constater que le prophète inspiré annonce la fin de la première alliance. Verset 31. « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue. » Ne nous y trompons pas, Dieu n'annonce pas ici juste un approfondissement de l'ancienne alliance. Il annonce une rupture. Alors, bien sûr que la nouvelle alliance vient accomplir l'ancienne, mais il y a une rupture tout de même. Cette nouvelle alliance n'est pas, dit le texte, comme celle conclue avec les pères. Cette alliance, affirme le Seigneur, elle a été rompue. Elle est donc caduque, ou plutôt, elle le sera. Les jours viennent, hein, et Jérémie ne parle pas de ce qui va arriver tout de suite à son époque. Pourtant, on l'a vu au début du chapitre, Dieu aime Israël d'un amour éternel. Donc, son amour et sa fidélité dépassent le cadre de l'alliance conclue au mont Sinaï. Et bientôt, annonce le Seigneur aux exilés à Babylone, non seulement je restaurerai le peuple, d'un point de vue territorial, d'un point de vue même émotionnel, hein, avec cette consolation, d'un point de vue spirituel, mais plus encore, je conclurai avec lui une alliance nouvelle, d'une autre nature que la précédente. Alors, en quoi sera-t-elle différente, justement ? Verset 33. Alors, un petit oubli de ma part, désolé. Donc, je vais juste le lire, le verset 33. « Mais voici quelle alliance... » Voilà, c'est pas grave. « Voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. » Une loi intériorisée qui s'impose de l'intérieur à la conscience. Et ça rejoint ce qu'on a vu plus tôt dans ce chapitre. Un jour, les Israélites, du moins certains d'entre eux, souhaiteront connaître le Seigneur et l'aimer et vivre d'une manière qui lui plaît. Ça viendra du cœur, ça viendra de l'intérieur. Ce sont eux-mêmes qui le rechercheront. Ils voudront le connaître. Eh bien, annonce l'Éternel, ce sera possible parce que Dieu va opérer une transformation spirituelle. Il va graver sa loi dans leur conscience, dans leur cœur. Le prophète Joël, décrivant lui aussi cette nouvelle ère à venir, précise que c'est par son Saint-Esprit que Dieu appliquera sa loi au cœur des hommes. Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » La perspective et le propos de Joël sont un peu différents, mais renvoient au même événement, à cette même transformation spirituelle. Et même si Jérémie n'évoque pas explicitement le Saint-Esprit, c'est la même réalité qu'il décrit, clairement. Dieu interviendra par son Esprit pour changer les cœurs et pour y appliquer, pour y greffer sa volonté, sa pensée, sa loi. Et le résultat de cela est que l'on apprendra à connaître Dieu, pas par l'observance d'une loi extérieure, mais en répondant à un désir intérieur de le connaître. Verset 34. « Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. » Tous connaîtront l'Éternel, donc ça ne sera pas nécessaire d'apprendre aux autres à connaître l'Éternel. Il faudrait développer un petit peu cela, mais je n'ai pas le temps. Mais disons qu'il y a, c'est la conversion dont il est question ici. La conversion viendra clairement de Dieu. Jérémie dit par ailleurs qu'il enverra lors de la nouvelle alliance des nouveaux bergers pour enseigner son peuple. Donc clairement, il ne dit pas là qu'il n'y aura plus jamais besoin d'enseignement dans la nouvelle alliance, mais il dit que la connaissance de Dieu, elle sera greffée par Dieu lui-même. Dieu laisse entrevoir un nouvel horizon où chaque membre de son peuple connaîtra personnellement et intimement. Mais comment Dieu va-t-il pouvoir conclure une telle alliance avec des gens toujours aussi pécheurs ? C'est le problème. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer que cette nouvelle alliance ne va pas échouer comme la première ? Et c'est là qu'intervient le fondement de cette nouvelle alliance, fin du verset 34. « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Et le texte hébreu dit littéralement « je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Ce qui, bien sûr, est une manière de dire que Dieu n'en tiendra plus compte, mais c'est très fort comme manière de dire. Notre péché ne sera même plus sur l'écran radar de Dieu. Son pardon est total et définitif. Si nous sommes en Christ, le pardon de Dieu nous est acquis. Alors, dans notre relation quotidienne avec Dieu, bien sûr, lorsque nous sommes convaincus de péché, nous devons encore, dans le cadre relationnel, lui demander pardon. Mais c'est dans un cadre relationnel et non plus dans... Ce n'est plus la relation elle-même qui est en jeu. Et voilà ce que Jésus a proclamé dans la chambre haute. Cette coupe, dit-il, est la nouvelle alliance en mon sang pour le pardon des péchés. Nouvelle alliance, pardon des péchés. Jésus est à fond dans Jérémie 31. Par sa mort, il a payé le prix de nos fautes. Il a accompli la purification de nos péchés. La condamnation qui aurait dû tomber sur nous est tombée sur lui à notre place, à la croix. Par sa mort, donc, nous sommes pleinement et définitivement pardonnés. Et nous ne sommes pas pardonnés pour vivre comme bon nous semble. Comme lorsque nous ne connaissions pas Dieu. Nous sommes pardonnés pour vivre cette vie de connaissance de Dieu. Pour vivre cette vie d'obéissance à sa loi qui est comme greffée sur notre cœur. Et nous sommes concernés par cette nouvelle réalité, nous aussi en France, en 2023. Parce que cette nouvelle alliance, si elle a été conclue dans un premier temps pour Israël, Dieu l'a rapidement ouverte à toutes les nations et toutes les générations. Cette nouvelle alliance s'adresse à toute conscience humaine parce que précisément elle n'est plus centrée sur des réalités extérieures qui pourraient séparer les hommes. Elle est marquée par un changement du cœur humain, une réalité intérieure donc qui nous concerne tous. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans sa lettre aux Éphésiens. En livrant son corps à la mort, Jésus a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, les non-juifs, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Et c'est pourquoi, dès après sa résurrection, Jésus envoie ses disciples, juifs, pour faire de toutes les nations ses disciples. La promesse ancienne faite à Abraham sera tenue. Cette relation privilégiée entre Dieu et Israël est désormais élargie à tous les peuples, aux hommes et aux femmes de toutes les nations, même la France, qui eux aussi veulent quitter leur exil spirituel pour retrouver leur chez-eux auprès du Créateur. Car on l'a déjà vu un peu dans les messages précédents, je crois qu'il y a de très forts arguments bibliques pour montrer cela, incontournables même, les épreuves et délivrances d'Israël dans l'Ancien Testament préfigurent, anticipent sur les épreuves et délivrances du monde entier. La captivité égyptienne, bien historique et réelle, illustre une captivité plus profonde, celle du péché, celle d'une vie loin de Dieu. L'exil babylonien illustre aussi un exil plus profond, celui de la vie dans un monde qui a oublié Dieu et qui vit comme bon lui semble. Or, les promesses du chapitre 31 ne répondent pas seulement à ces réalités limitées et symboliques de l'histoire d'Israël. Elles décrivent une délivrance qui va beaucoup plus loin et elles répondent à la perdition humaine qui nous concerne tous. Et c'est là qu'il est essentiel de lire Jérémie 31 à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de Jésus, à la lumière de ce qu'il dit dans cette chambre haute. Cette nouvelle alliance, elle est conclue par Jésus, en Jésus, grâce à Jésus. C'est lui qui nous délivre. Dieu le Père a en quelque sorte concentré en son Fils le message de délivrance dont toute l'humanité a besoin. Et Jésus apporte la réponse parfaite à notre exil spirituel, à l'épreuve que nous vivons encore dans ce monde déchu. En Jésus, nous trouvons le retour à la maison du Père, la restauration de nos vies et de nos âmes, la consolation de nos peines, la joie, la communion, la paix pour toujours. Et je pense que nous avons suffisamment vu qu'il n'y a pas là un message déconnecté de la réalité, angéliste, naïf. Pour l'instant, beaucoup de larmes coulent encore. C'est pour ça que Matthieu cite que le verset 15 dans son évangile. Parce que pour l'instant, on est encore dans le temps des larmes. Mais la joie a déjà percé dans cette réalité-là. La paix et la consolation ont déjà percé. Beaucoup de larmes coulent encore, comme pour les Judéens en captivité. Mais Dieu promet qu'il les séchera. Et comme il a tenu toutes ses promesses jusqu'ici, comme toutes ses promesses sont oui en Jésus-Christ, pourquoi en douterions-nous? Maintenant, la question pourrait se poser, si nous avons saisi cette nouvelle alliance en plaçant notre foi en Christ, est-ce qu'on peut dire, bon, bah, c'est une affaire réglée, c'est une réalité à un instant T, ça y est, je me suis converti, j'ai cru en Jésus, ticket pour le paradis est dans la poche, maintenant je vais pouvoir me concentrer sur projets professionnels, familiaux, les voyages dont je rêve, etc. Mais si on pense comme cela, ou si on persiste à penser comme ça, c'est peut-être qu'on ne connaît pas vraiment l'Éternel, et qu'on n'a pas envie de le connaître surtout. Parce que précisément, la foi à laquelle nous sommes appelés n'est pas une réalité extérieure, une case à cocher, mais c'est une réalité intérieure, pleine d'amour, une relation authentique. Et bien sûr, la réalité à laquelle nous appelle ce texte, elle est dynamique, c'est une croissance. On apprend à connaître Dieu de mieux en mieux. Il y a un approfondissement. Cette croissance, elle n'est pas sans recul. Bien sûr, ça se saurait, elle n'est pas sans échec à cause de notre faiblesse, mais elle revendique tout ce que nous sommes. Et en fait, c'est exigeant. Dans un sens, une loi extérieure, c'est plus facile. Fais ceci, ne fais pas cela. Alors, je caricature un peu parce que la loi de Moïse ne se résume pas à ça, bien sûr. Mais dans l'extériorité, il y a quelque chose de rassurant. On coche des cases, en quelque sorte, on accomplit des devoirs religieux. Alors après, le cœur peut y être ou ne pas y être, mais quelque part, c'est là-dessus que l'alliance est centrée. L'intériorité, c'est plus riche, mais plus complexe aussi. Il faut apprendre à aimer ce que Dieu aime et à se détourner de ce qu'il n'aime pas. Et ça, c'est un apprentissage qui dure toute la vie. Il y a 3 ans, j'ai pris la grande décision d'arrêter de mettre du sucre dans mon café. Je me suis laissé convaincre par un voisin. Il m'a dit, tu vas voir, pendant un mois, tu vas pas aimer. Mais tiens bon, force-toi à continuer à boire du café comme ça et tu verras qu'une fois que tu seras habitué, non seulement tu aimeras le café sans sucre, mais tu ne supporteras plus le café avec sucre. Et je confirme et je recommande d'ailleurs. Aujourd'hui, le café sans sucre me paraît très bon et le café avec sucre écœurant. Parfois dans la vie, on est amené à changer de goût, à apprendre à apprécier quelque chose de nouveau, à s'habituer à une nouvelle manière de faire. Dans une dimension combien plus essentielle, voilà à quoi Dieu nous appelle dans le cadre de la nouvelle alliance. Apprendre à aimer ce qu'il aime, y compris des choses qui auparavant ne nous semblaient pas attirantes. Par exemple, l'humilité, pas attirant spontanément. Le don de soi, encore moins peut-être. La douceur, la patience, la bienveillance, etc. Et puis c'est apprendre à trouver de moins en moins bonnes et agréables des choses que Dieu n'aime pas. L'arrogance, l'égocentrisme, la médisance, la cupidité, l'immoralité, etc. Maintenant, comment vivre cette dynamique de croissance? Et là, il ne faudrait surtout pas mal comprendre de quoi il est question avec cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ce n'est pas vivre avec Dieu au feeling, selon notre humeur. Dieu dit qu'il mettra sa loi dans nos cœurs, pas la nôtre. C'est sa loi. Dieu greffera sa volonté en nous avec délicatesse. Et là, il y a une interaction mystérieuse parce que nous résistons beaucoup à cela. Mais il greffera sa volonté en nous avec délicatesse pour que peu à peu elle s'impose à la nôtre. Et cette volonté de Dieu, on ne va pas la trouver dans nos pensées encore marquées par le péché, mais on va la trouver dans la parole de Dieu. Cette intériorité à laquelle nous sommes appelés, elle ne vient pas de notre feeling, elle vient de la parole de Dieu. Et j'aimerais souligner que, quelles que soient les situations que nous traversons, aussi complexes soient-elles, c'est toujours le bon choix de se recentrer sur la parole et sur l'évangile. Nos situations, elles sont complexes, ça c'est sûr. Mais la feuille de route que Dieu nous donne, elle est assez simple. Venez à moi, revenez à moi, encore et encore et encore. Ça ne sera pas sans effort, ça ne sera pas sans souffrance. Mais ça sera toujours révélé comme le bon choix. Et ce choix, heureusement, nous ne sommes pas tout seuls pour le faire. C'est pour ça que Dieu nous a placés dans des églises. Et dans des familles d'église également, où nous pouvons nous encourager les uns les autres, régulièrement à nous centrer et recentrer sur Jésus, à nous tourner ensemble vers lui pour grandir ensemble pour lui. Or, en faisant cette démarche de nous tourner vers lui, de puiser nos forces dans sa parole, nous ancrons nos vies dans quelque chose d'absolument et parfaitement stable, les promesses de Dieu. et on a vu, il les tient toutes. Et c'est ce que souligne la fin du chapitre, j'ai lu les versets 35 et 36. Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois, qui règle la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et qui fait mugir ses flots, et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Ici, Dieu dit en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, « Je cesserai de vous aimer lorsque les poules auront des dents ». C'est ça que ça veut dire. Alors le langage du texte est bien plus majestueux. Il faut avouer. Mais Dieu dit que sa fidélité à son peuple, elle est aussi sûre que les lois fondamentales de la nature. Et cela nous dit d'abord que la fidélité de Dieu traverse toute l'histoire. L'alliance conclue au mont Sinaï, elle a été bafouée, mais Dieu n'a pas abandonné son peuple pour autant parce que son amour traverse les âges. Tant que le soleil se lèvera et se couchera, tant qu'il y aura des étoiles dans le ciel, Dieu aimera ceux qu'il a décidé d'aimer. Ces promesses de Dieu que nous avons lues dans ce chapitre et dans les deux chapitres précédents, c'est des promesses qui sont béton. Et cette analogie, elle prend d'autant plus de poids lorsqu'on se rappelle que la parole de Dieu n'annonce pas la suppression de la création au dernier jour, mais sa transformation et son renouvellement éternel. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc des étoiles, il y en aura encore. La terre, le soleil, il y en aura encore. Autrement dit, le soleil, la lune, les astres seront là pour toujours comme les promesses de Dieu. Je conclurai en disant que nous vivons tous nos vies, il me semble, en aspirant à une réalité profondément nouvelle. La satisfaction de tous nos besoins. Des relations apaisées et réconciliées. Et s'il y a des relations ici qui ont besoin d'être apaisées et réconciliées, j'espère que ce sera le cas avant la fin du congrès. Des vies remplies de joie, de paix et d'abondance, comme une source intarissable. De diverses manières, il me semble que nous rêvons de cela. Mais l'espérance, ça fait un peu mal parfois, parce que ça nous amène à constater le décalage entre la réalité et ce à quoi nous aspirons. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous soupirons dans l'attente de cette réalité. Mais Dieu a prononcé des paroles irrévocables. Il a posé des actes objectifs dans l'histoire qui nous disent que ces rêves deviendront réalité, à coup sûr. Et même, la réalité ira même bien au-delà de nos rêves. Notre espérance est ferme. Notre exil se terminera. Dieu a signé, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et je terminerai par ces mots que nous trouvons à la fin de la Bible, des mots que là encore Dieu lui-même a signés. Apocalypse 21:3. Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Amen. Père, que ta parole et tes promesses continuent de faire leur chemin dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.